Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui illustre les vers de Corneille. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. J'ai désigné le romancier genevois, Joël Dicker. Bonjour Joël.
Bonjour Viviane.
C'est vrai?
Écoutez, je rougis.
Pas encore, Il y a beaucoup de raisons de rougir et on va voir ça tout au cours de cette émission. Je vous pose d'abord et directement la question rituelle. Quel petit garçon étiez-vous?
J'étais un petit garçon rêveur, créatif aussi. Et les deux ne sont pas forcément liés. Hein. Quand on est rêveur, ça veut dire qu'on imagine, qu'on flâne, qu'on se projette. Je me projetais beaucoup en imaginant comment je serais plus grand, ce que je voudrais faire plus grand. Et créatif, c'est un aspect beaucoup plus concret de la rêverie. Ça veut dire qu'on accomplit quelque chose. Et donc, je dessinais beaucoup, j'écrivais déjà, je racontais pas mal d'histoires. Et puis, j'étais quand même aussi, il faut que j'ajoute, un petit garçon parfois révolté. Pas très scolaire, posant beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on fait pas les choses différemment. C'était pas une révolte gratuite, c'était vraiment un vrai questionnement du fonctionnement. Et ça n'était pas toujours bien accueilli par mes professeurs.
Alors, vous êtes un peu tombé dans la marmite de l'écriture quand même, parce que votre mère était, je crois, libraire à Genève et votre père, oui, professeur de français.
Absolument.
Ça aide un peu quand même, là.
Ça aide un peu. Je crois que ce qui m'a aidé dans ça, c'est surtout une approche du livre très décomplexée. Il y avait beaucoup de livres chez moi, mais beaucoup de livres dans la bibliothèque de mon père, beaucoup de livres que ma mère amenait, qu'elle lisait, qu'elle ramenait. Donc il y avait un va-et-vient de livres. Et il y avait la notion du livre dont on peut faire ce qu'on veut. On peut l'ouvrir, on peut le fermer, on peut le lire ou pas, on peut l'abandonner. C'était un objet, et ça reste hein, dans ma famille, un objet de curiosité dans le bon sens du terme. Et un objet aussi qu'on a le droit de pas aimer. Et je crois que ça, c'était un élément important pour moi. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je crois que c'est parfois quelque chose qu'on véhicule chez les plus jeunes, que la lecture est un moment solennel et important, etc. Je crois pas que ce soit la lecture qui est importante. C'est l'acte de lire. C'est-à-dire, c'est pas la même chose, mais le fait d'être un lecteur est important. Après, on a le droit de pas aimer un livre. On a le droit de le reposer. On a le droit de le détester. On a le droit de le jeter, même si vraiment on ne le supporte pas. C'est
aïe,
acceptable.
Aïe.
Tout est acceptable, je crois, en tout cas.
Alors, vous êtes d'une famille qui a souffert, il faut le dire, hein, une famille, racontez-nous, parce que je crois que voilà, c'est votre grand-père qui est arrivé.
Oui, alors si je remonte même une génération plus loin, je suis issu d'une famille d'aristocrates russes qui a fui la révolution, de l'autre côté, du côté de mon père, de révolutionnaires russes qui ont fui le tsar, donc un petit peu avant, et ils se sont retrouvés par hasard à Genève. Du côté de mon père, il est venu à Genève après avoir fui la Sibérie du temps du tsar. Du côté de ma mère, c'était des aristocrates juifs russes qui ont fui la Russie, qui sont allés en France, et qui en France, pendant la guerre, sont passés pour mon grand-père et mon grand-oncle en zone libre, et à l'invasion de la zone libre, sont finalement venus en Suisse, où ils ont été accueillis en tant que réfugiés, avec un passeport Nansen, et ils ont été ensuite, après la guerre, ils sont restés en Suisse, mais ils ont été naturalisés français. Il fallait leur trouver une nationalité, et ils étaient français. Ma mère est née française, elle est devenue suisse dans un deuxième temps, et donc j'ai ce rapport aussi à la Suisse, à ce que beaucoup de Genevois et de Suisses ont aussi, c'est-à-dire un ancrage très fort, une identité genevoise et suisse très forte, et qui est renforcée justement par cette multiculturalité et par ces racines assez lointaines qui sont les miennes.
Alors je crois qu'à l'âge de 10 ans déjà, vous avez écrit un journal, c'est ça?
La Gazette des Animaux, vous êtes bien renseigné.
La Gazette des Animaux.
Oui, c'était un petit journal sur la nature. J'aime toujours les animaux, la nature, j'avais envie d'en parler. Et puis je tapais ce journal sur l'ordinateur de la famille, je l'imprimais, je le photocopiais et je l'envoyais à quelques abonnés, pour l'essentiel, oncle, tante, cousin, cousine. Et ça a été une expérience assez importante pour moi parce que, alors j'étais évidemment dans du journalisme, si j'ose dire, mais c'est-à-dire que j'étais contraint par les faits. Je racontais des choses que je lisais ailleurs, mais j'étais tenu de raconter la vérité sur les espèces, sur les régions, sur ce genre de choses. Mais ce qui me plaisait, c'était que j'écrivais ce journal chez moi, je l'imprimais, je l'envoyais par la poste à des gens qui le recevaient quelques jours plus tard, le lisaient quelques jours encore après, m'écrivaient ensuite une lettre que je recevais encore quelques temps plus tard, et donc ce journal continuait à vivre. tout d'un coup, un texte que j'avais écrit il y a une semaine, deux semaines, un mois, suscitait une lettre que je recevais. Et vous savez, quand on est enfant et qu'on reçoit une lettre, c'est l'excitation. Quand on est grand, ça l'est plus du tout, parce qu'en général,
c'est des factures.
Absolument. Mais quand on est enfant, il y a cette émulation, et je recevais des lettres dans lesquelles mon texte revivait. Et j'ai adoré ce sentiment qu'un texte écrit restait vivant. Et
c'est ça a duré 7 ans. Hein.
Ça a duré 7 ans. Le journal a duré 7 ans. Mais
et puis vous avez même eu un prix. Hein. Ça débutait une série de nombreux prix, on le verra tout à l'heure. Mais
le
un prix
Cuneo,
Cuneo pour oui. la protection de la nature.
En 1998, remis par la SPA. J'étais très touché parce que ça m'avait vraiment aussi donné beaucoup d'élan. Et c'était un bel encouragement. Et puis le journal m'a donné envie d'écrire des romans parce que j'avais envie de conserver cette lecture vivante dans laquelle des gens lisent plus tard un texte que j'écris maintenant. Mais j'avais envie d'être libre. Et libre d'écrire ce que je voulais, et je me suis mis à la fiction.
Alors, en 2005, vous avez quel âge en 2005 ?
J'ai 20 ans.
20 ans, vous écrivez ce délicieux conte, Le Tigre.
Le Tigre.
Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Merci.
Oh, je pensais qu'il y avait un homme caché derrière le tigre.
Ah, ça pourrait être pas mal. Le prochain livre, je vous appelle pour qu'on...
Avec plaisir.
Ça aurait pu être pas mal, effectivement.
Oui, ouais. Je pensais que, comme il apparaissait, il disparaissait, on n'arrivait pas à le tuer.
C'est
ça aurait
vrai.
Pu être un homme, ça aurait pu être un loup-garou, en fait.
Oui,
voilà. Je pensais à un genre de loup-garou.
Et une chimère, c'est pas mal aussi. Hein.
Oui,
le tigre, c'est mon premier texte complet. Avant le tigre, j'écris beaucoup, j'essaie d'écrire des romans, j'arrive pas au bout des livres parce que je crois que je tente d'écrire des histoires trop longues. Et le livre, qui est une nouvelle, mais une longue nouvelle, ou un roman très très court, c'est aussi l'histoire de la Russie, de ma Russie. Et donc c'est un premier texte dans lequel, tout en racontant quand même une véritable intrigue, je me raconte aussi un petit peu moi.
Alors vous avez le prix international des jeunes auteurs.
Oui.
Ça commence, les prix. On va écouter un peu de musique maintenant.
Avec
qu'est-ce
plaisir.
Qu'on écoute ?
On écoute Chan Chan, Compay Secundo, membre du Buena Vista Social Club. Pourquoi cette chanson ? Parce que ça fait partie de la musique que j'écoute quand j'écris. J'écris toujours en musique, mais je ne peux jamais écouter de la musique sur laquelle il y a des paroles en français parce que ça me perturbe. Donc j'écoute en général beaucoup de musique latino-américaine.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro.
a Puerto y para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto y para Mayarí.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec Joël Dicker qui, comme on le sait, est un grand romancier genevois. Alors, on a commencé par raconter votre histoire au départ, de petit garçon qui adore la nature et qui écrit un petit journal. Ensuite, on voit qu'à 20 ans, vous écrivez ce conte charmant. Je répète le titre, Le Tigre, et il est très joliment illustré aussi. Et puis ensuite, vous pondez des romans, et ces romans ne sont pas acceptés. Je crois que vous avez un moment où vous vous demandez même si vous avez raison de poursuivre dans cette voie.
C'est vrai. Après Le Tigre, je pense que l'écriture du Tigre a une libération parce que je me rends compte que je suis capable d'écrire un livre du début à la fin. Et je veux préciser quand même, surtout si certains d'entre vous qui nous écoutez écrivez, et c'est une question qu'on me pose souvent, comment est-ce qu'on écrit ? C'est vrai que c'est un métier qui répond à aucune formation, à aucun cursus. Les écrivains connaissent un peu des cours comme ça, universitaires, mais c'est assez rare et en Europe, pas du tout. Alors comment on écrit un livre, ça reste un mystère et ça reste, alors que si vous voulez être, je ne sais pas, médecin, physiothérapeute ou journaliste ou peu importe, vous pouvez suivre un cursus, vous pouvez suivre une formation qui va vous donner les clés de ce métier, qui va être sanctionné par un diplôme à la fin, qui atteste que vous êtes bel et bien un médecin, un physiothérapeute, un journaliste ou je ne sais quoi. Quand vous voulez être écrivain, il n'y a rien de tout ça, il faut le découvrir.
Oui, vous avez fait une licence de droit, ça n'a rien à voir.
J'ai fait des études de droit, absolument, et du coup, Le Tigre était un premier exercice accompli qui m'a donné envie d'écrire des romans plus longs. Alors j'ai écrit, juste après Le Tigre, un premier roman terminé, que j'ai envoyé à tous les éditeurs, possible, imaginable, et tout le monde m'a dit « non, merci beaucoup ».
Ça, c'est drôle, hein, et c'est très intéressant. C'est très intéressant, cette partie-là, de dire que... Au fond, vous avez écrit, vous avez envoyé à tous ces éditeurs et qui n'ont pas voulu de vos romans. Parce que ça permet justement peut-être à certains auditeurs qui veulent écrire de ne pas se décourager. Et j'en connais de très importants aujourd'hui qui ont écrit des manuscrits que j'ai lus, qui sont très bons. Je ne citerai pas son nom parce que c'est un monsieur très connu. Il est d'ailleurs venu à ce micro. Pour le moment, il n'a pas trouvé d'éditeur alors que je trouve que franchement, son roman est formidable.
Ah, c'est incroyable. Je crois que c'est important. Il faut bien se rendre compte que, d'abord, le monde de l'édition francophone est surchargé. Et surtout après le coronavirus, où les gens ont beaucoup écrit, les éditeurs...
Oui, ils ont eu le temps à la maison.
Les gens ont eu le temps de le faire. Et les éditeurs s'attendaient, ou s'attendent peut-être toujours, à un déferlement de manuscrits. Et les éditeurs sont pas très bien équipés, au fond, pour lire tout ça. Parce qu'il y a une forme de démocratie qui est belle, ou de démocratisation du manuscrit, où chacun peut envoyer, ce qui se fait nulle part ailleurs au monde, hein, chacun peut envoyer par la poste un manuscrit chez un éditeur. Et il arrive de temps en temps qu'une pépite comme ça...
Sortent et même
connaissent un succès immense ou des prix. Je pense à Alexis Génie, le prix Goncourt pour L'Art de la Guerre, qui était un manuscrit envoyé par la Poste. Je pense à L'Élégance du Hérisson, Muriel Barbery, qui s'est vendu à 1 ou 2 millions d'exemplaires en France. Enfin, ça arrive. Mais ce qui arrive souvent, c'est que...
c'est un peu le miracle, hein, quand même.
C'est un peu le miracle. Ce qui arrive souvent, c'est que les manuscrits ne sont pas lus, les manuscrits sont à moitié lus, et puis il y a
et renvoyés,
très
bons livres, ou renvoyés, pas renvoyés.
Et renvoyés,
et
ou
de
pas
façon
renvoyés,
pas toujours polie.
Mais c'est souvent très sec. On vous dit, voilà, madame, monsieur, parfois même, donc on sait même pas, c'est vraiment la preuve qu'on est face à une lettre type. Merci pour votre texte qui n'a pas retenu notre attention. Au revoir. C'est très
et quand
sec.
Quand on pense que quelqu'un a peut-être passé 2 ou 3 ans à écrire ce manuscrit, c'est désolant, c'est désespérant. Hein.
Mais conseil parfois, c'est d'essayer de trouver un éditeur qu'on connaît, ou de créer un lien, de commencer par un email, ou de, voilà.
Alors Joël, à l'époque, en tout cas, vous ne connaissiez
personne. Donc j'envoie mon manuscrit comme ça, pouf. Ouais. Et je reçois des refus, que des refus.
Et là, à un moment, j'ai lu que vous avez dit dans une interview que vous étiez désespéré, que vous demandiez, vous étiez complètement déprimé, et que vous promenez boulevard Saint-Michel à Paris, et que vous tombez sur une librairie qui malheureusement a disparu, vous le savez, la librairie Gibert.
Oui.
Et là, il se passe un petit miracle.
Alors là, il se passe un petit miracle. Avant ça, je précise que j'ai écrit un roman, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, refusé par tous les éditeurs.
Ah oui, c'est beaucoup ça quand même.
Et l'événement dont vous parlez se passe juste après que j'ai rencontré un très grand monsieur, un éditeur qui s'appelle Bernard de Fallois, qui a refusé un de plus mon texte, mon livre, intitulé « Les derniers jours de nos pères ». Et Bernard de Fallois me dit « Non, mais j'y crois pas, cette histoire... »
Bernard de Fallois, pour les auditeurs suisses, il faut quand même dire que c'était quelqu'un qui avait édité Pagnol.
Oui.
Et qui est d'innombrables célébrités. C'est quelqu'un qui, je crois, avait 80 titres dans son... Voilà, 90 titres édités, mais très, très choisis, avec
absolument.
Des gens très
ouais.
haut de gamme. Hein.
Et puis c'était un homme qui a vraiment fait la pluie et le soleil dans le monde de l'édition pendant 40 ans ou plus, et avec une aura, c'était un très grand nom de l'édition. Et de Fallois refuse mon livre parce qu'il me dit, c'est un livre qui se passe pendant la guerre, et il me dit, mais j'y crois pas, c'était pas comme ça à l'époque, etc. Puis il me dit, moi j'ai vécu la guerre, je suis né en 26, vous êtes né en 85, c'est impossible. Et en me promenant, je trouve chez Gilbert Joseph des livres qui parlent exactement de ce sujet. Alors je les prends, je les envoie à Bernard, à De Fallois, je lui dis « Monsieur, lisez, voilà, regardez, ce que je raconte est vrai, voilà la preuve, donnez une chance à mon livre. » Et Bernard De Fallois va accepter. Il va accepter de faire paraître mon premier roman, qui s'intitule « Les derniers jours de nos pères » et qui paraît en janvier 2012. Et ça va être, alors ça a commencé de façon un peu difficile.
Il faut raconter ce que c'est, le thème est intéressant. Donc ce sont, en fait, ce sont des services secrets britanniques qui ont formé des résistants français pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Absolument. En deux mots, juste après la défaite de Dunkerque en 1940, Churchill réunit ses ministres, son conseil de guerre, et dit « qu'est-ce qu'on fait ? Notre flotte est annihilée, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas ne rien faire ». C'est-à-dire qu'il a conscience que le temps que l'armée anglaise se rebâtisse un peu, les Allemands vont prendre un essor trop important et ils ne pourront pas renverser ensuite le cours de la guerre. Il décide de créer, c'est quelque chose unique à ce moment-là, une guérilla militaire dans laquelle il va aller chercher des agents dans tous les pays d'Europe occupés, les envoyer en Angleterre pour les former, et les renvoyer dans leur pays d'origine pour y commettre du sabotage et de la guérilla contre les Allemands. Et ça, c'est le SOE. Et c'est révolutionnaire et ça a été diplomatiquement très problématique parce que, notamment pour les Français, et vous savez comme De Gaulle et Churchill pouvaient avoir quelques...
Oui, puis il y avait la résistance intérieure et il y avait la résistance de Londres.
Absolument.
Et ces gens-là, après la guerre, ne s'aimaient pas beaucoup.
Ne s'aimaient pas beaucoup. Et la grande difficulté du SOE, c'est que les Anglais, notamment pour la France, sont allés chercher des Français, les ont formés en Angleterre et les ont envoyés en France mener des actions militaires pour le compte de l'Angleterre. Et la fin de la guerre, alors que le SOE avait vraiment œuvré de façon incroyable au débarquement et à la libération de la France, De Gaulle a dit « tous les gens du SOE ont les fusils ». Parce qu'ils considéraient que c'était de la haute trahison, puisqu'ils avaient obéi à un pouvoir étranger. Et parmi les manœuvres d'apaisement qui ont été mises en place, il y a eu la promesse qu'on ne parlerait pas du SOE. Et tout ce qui concerne le SOE a été secret défense pendant 50 ou 60 ans.
Mais vous savez que celui qui a empêché le général de Gaulle de faire ça, c'est un monsieur dont je salue la mémoire, qui s'appelait Henri Frenay. Et qui avait justement été le patron de la résistance intérieure et qui a mis sa démission. Il était évidemment ministre des anciens combattants. Aujourd'hui, ça ne représente rien, mais à l'époque, c'était énorme. Et il a mis sa démission en balance et De Gaulle n'a pas osé passer outre.
Voilà,
c'était le
merci.
Parrain de mon premier mari. Donc, voilà.
Extraordinaire. Ouais.
J'ai bien connu Henri Frenet, marié à une Corse, d'ailleurs. Voilà, donc c'est lui, c'est cet homme de bien qui a empêché ça.
Et c'était... c'est un sujet qui a été passé sous silence pendant très longtemps. Et je crois que c'est pour ça que Bernard de Fallois a eu beaucoup d'hésitation à en parler. Mais ça a été le livre qui nous a permis de nous rencontrer, parce que juste après, il a accepté de faire paraître mon deuxième livre qui s'appelle « La vérité sur l'affaire Harry Quebert ».
On va en parler tout à l'heure. Et qu'est-ce avec qu'on plaisir. Écoute maintenant ?
On écoute Maria Callas, « Casta Diva », qui a été un des titres, justement, un des titres que j'ai beaucoup écouté pendant l'écriture de « La vérité sur l'affaire Harry Quebert ».
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le grand romancier Joël Dicker. Et nous allons venir maintenant à un titre célébrissime, puisque je crois qu'il a eu une série de grands prix, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors ça, il faut quand même le dire, je crois qu'il a été traduit dans 40 langues et publié dans 60 pays.
Oui, c'est vrai.
C'est pas rien. Hein,
ouais.
Et les prix, alors beaucoup de prix aussi. Hein. Grand prix du roman de l'Académie française, prix Goncourt des lycéens. Mm-hmm. C'est la gloire tout d'un coup, Joël. Pour quelqu'un qui avait eu tellement de mal, qui n'arrivait pas à être publié, c'est incroyable ça.
Mais c'est incroyable. Et ce que vous dites a été vraiment pour moi un moment clé. C'est cette soudaineté du succès qui arrive sans crier gare. Je vous parlais juste avant de Dernier jour de nos pères, qui paraît en janvier 2012 et qui paraît... Je vous le disais aussi, après des atermoiements, après beaucoup de temps à trouver un éditeur, etc. Tout ça m'a donné beaucoup de temps pour écrire un autre livre qui s'appelle La vérité sur l'affaire Harry Kéber. En janvier 2012, quand mon premier roman paraît, le roman suivant est déjà écrit, il est prêt. Et Bernard de Fallois, mon éditeur, me dit « Ah, il paraît que vous avez quelque chose de prêt, j'aimerais beaucoup le lire ». Alors moi, je suis très inquiet parce que c'est un roman là très différent, c'est un policier.
C'est un roman policier.
C'est un roman policier qui se passe aux États-Unis, qui est très long, avec beaucoup de rebondissements. Et je me dis, connaissant Bernard, c'est pas son genre. Et je suis très inquiet, je me dis, il va détester, il va refuser de le faire paraître. Et je vais me retrouver à la case départ comme avant, et je suis très inquiet. Et voilà qu'il le lit en une nuit, et qui me dit le lendemain matin, « Joël, c'est formidable, je veux le faire paraître immédiatement ». Et là, au lieu de me réjouir et de me dire « bah c'est super, mais mes angoisses n'avaient pas lieu d'être », je m'inquiète et je me dis « non, c'est impossible ». Et je refuse. Je refuse pourquoi ? Parce que pour moi, mon premier roman vient de paraître, qui a connu un succès très limité, voire minime. Je me dis « c'est pas du tout le moment, il faut d'abord que je pense à ma propre vie, il faut que je me trouve un travail, j'ai pas maintenant le temps de me consacrer à publier en une année deux livres qui ne marchent pas, il faut que je me pose des questions sur ma vie ». Et puis Bernard insiste, il me dit non, mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il insiste pendant 4 mois. Et finalement.
Ah, parce que vous résistez pendant 4 mois à cette offre de publication qui est formidable.
Mais ce qui est formidable, évidemment, c'est son enthousiasme et son excitation. Mais moi, à ce moment-là, j'ai 26 ans, j'ai pas de travail, j'ai pas d'avenir, je sais pas ce que je vais faire. Je vois mes autres copains qui, eux, ont déjà un emploi, qui ont déjà une carrière qui commence. Et moi, je suis embêté parce que je sais que je veux être écrivain, mais en même temps, écrivain, c'est pas un métier qui, en général,
qui nourrit son homme,
qui nourrit son homme, qui vous permet de vous installer aussi. Et puis, on se dit, ben voilà, peut-être que bientôt j'aurai une famille. Et puis, on se pose plein de questions quand on a 26 ans. C'est pas une période simple. C'était en tout cas pour moi une période difficile pour tous ces questionnements. Et donc, je dis non à Bernard parce que je dis, il faut d'abord que je trouve la vraie route de ma vie, un emploi, une carrière. Et puis, à côté, ben, volontiers, de temps en temps, je ferai paraître un livre si vous voulez bien le faire. Et il insiste, il me dit, vous vous rendez pas compte, il faut le faire tout de suite. Et il insiste tellement que finalement, j'accepte. Et ce livre paraît dans l'urgence parce qu'il me dit, finalement, j'accepte. Donc, au mois de juin, on a passé des mois, j'ai passé des mois à lui dire non. Et il me dit, on va le faire paraître au mois de septembre, c'est très important, il va avoir des prix.
Parce qu'il y a les prix, oui.
Parce qu'il y a les prix. Et moi, j'y croyais pas du tout. Mais il était tellement excité, tellement génial et tellement
heureux. C'était un vieux monsieur. Hein,
c'était un monsieur qui était de 26. Donc à ce moment-là, il a déjà 86 ans. Et
il était visionnaire.
Il était visionnaire, mais surtout moi qui avais 26 ans et lui 86, je trouvais tellement extraordinaire d'avoir quelqu'un qui avait 60 ans de plus que moi et qui était jeune, enthousiaste, qui croyait en ses rêves.
C'était un grand-père
dans l'âge, mais en tout cas dans notre relation. C'était un maître pour moi, c'était un homme vraiment qui m'a ensuite encore plus, hein, qui m'a appris tellement. Mais sur le moment, on n'a pas encore cette relation maître-élève, on a vraiment ce lien, je me dis, cet homme rêve tellement fort, je veux rêver avec lui. Et le livre paraît en septembre 2006, le premier tirage est de 6000 exemplaires, donc moi-même je me dis, mais 6000 exemplaires, qui sont les 6000 personnes qui vont acheter ce livre? Et 4 mois après, on en avait vendu 600 000 en France et vendu les droits dans 20 ou 30 pays qui sont devenus 40 ensuite. Et ça a été ce succès. A été un raz-de-marée, en tout cas pour moi, dans la soudaineté, dans l'immédiateté. Ça a été pouf, du jour au lendemain. Et...
Alors là, comment on se sent quand on se réveille le matin avec ce succès, mais ce succès qui doit faire peur en même temps ?
Mais c'est un succès qui fait... Ben, c'est un succès qui est un succès de livre. Et c'est important parce que quand les gens ont lu un livre, ils ont aimé un roman, ils ont aimé un texte, ils connaissent pas toujours l'écrivain. Et ça m'arrive encore maintenant de dire, quand je rencontre des gens qui ne me connaissent peut-être pas, qu'est-ce que tu
Joël,
fais
Joël, j'ai honte, mais moi, je ne vous connaissais pas, parce que je ne lis pas de romans.
Vous voyez, mais c'est très bien. Mais ce qui m'a plu dans ce succès, et ce qui me plaît toujours, c'est que ce n'est pas un succès lié à ma personne ou à moi, Joël, c'est que c'est un succès lié à mes livres. Et ça rend le succès très doux. Et je peux le voir, ou j'ai pu le voir par rapport, par exemple, à des présentateurs de télévision, qui sont des gens qui sortent dans la rue et qui sont alpagués par des kidam qui ont l'impression de les connaître, parce que ça fait 20 ans qu'ils les voient dans leur salon et ils les appellent par leur prénom. C'est assez fou. Alors que moi, en général, on me dit « Ah, monsieur Dicker, j'ai lu votre livre, j'ai beaucoup aimé, merci, au revoir. » Il y a quelque chose
c'est bien, cette distance.
C'est très bien. Il y a cette distance, il y a ce respect. Ça rend le succès très agréable. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi la chance, vous le disiez, d'être édité, de paraître dans de nombreux pays. Et puis, à ce moment-là, chaque pays est un recommencement. Parce que quand je vais en Espagne, ou en Italie, ou en Angleterre, ou ailleurs, faire la promotion de Harry Quebert qui sort dans le pays, j'ai peut-être vendu beaucoup de livres en France et en Suisse, mais dans le pays dans lequel je vais, je repars à zéro. Et ça a été aussi une bonne leçon de se rendre compte que vous pouvez être très connu dans votre ville et village, il suffit de faire une heure de route dans un sens ou dans l'autre, et personne ne sait qui vous êtes. Et ça, c'était une belle leçon.
Sûrement. Alors, la suite. La suite, il y a beaucoup d'autres livres. Après.
Il y a eu ensuite le livre des Baltimore, qui a été un livre assez difficile à écrire parce qu'il y avait ce succès qui me tournait autour. Et je me disais, mais qu'est-ce que je dois écrire? Comment est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois faire?
On est quelle année, là?
Là, le livre paraît en 2015, donc c'est la période de 2012 à 2015. Ce qui m'a aidé à écrire ce livre, ce sont les échecs précédents. Et je me rends compte, grâce au succès de Harry Quebert, que, pardon pour cette banalité, mais qui est devenue une évidence pour moi, que ce qui vous apprend vraiment quelque chose dans la vie, les vraies leçons de la vie, ce ne sont pas les succès, ce sont les échecs. Les succès ne s'expliquent pas. Quand vous réussissez quelque chose, il peut y avoir, et c'est souvent le cas, un peu de chance, un peu de...
Conjonction,
la bonne personne, le bon endroit. Le succès ne s'explique quasiment jamais. Alors que l'échec, vous l'expliquez tout de suite, et vous l'expliquez en détail. Il vous permet d'avancer, il vous permet de comprendre ce que vous avez fait, de vous comprendre vous. Et quand je suis écrasé un peu par le succès de Harry Quebert, je m'en remets et je m'accroche à mes échecs qui me permettent de me dire, mais voilà, là, dans ces moments-là, j'ai compris peu à peu pourquoi j'écrivais, ce que je voulais faire. Je me rends compte que tous ces refus des éditeurs me permettent de construire quelque chose et m'ont permis d'écrire ce livre Harry Quebert. Et donc je me dis, ne t'inquiète pas, continue à faire ce que tu fais depuis 10 ans et 6 romans, écris le prochain en ne te préoccupant que du plaisir que tu peux avoir à écrire un livre. Et c'est comme ça que j'ai passé les deux années suivantes à écrire ce livre des Baltimore, publié en 2015, et puis ensuite quelques autres, La disparition de Stéphanie Meller, et puis L'énigme de la chambre 622, paru en 2020.
On va y venir après, et on écoute quoi en attendant?
On écoute Michel Petrucciani, Looking Up. Michel Petrucciani, pianiste de jazz extraordinaire, que j'ai eu la chance, l'honneur et l'occasion de voir sur scène à quelques reprises, et ça fait aussi partie de ce que j'écoute quand j'écris.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Nous sommes en 2018, n'est-ce pas, mon cher Joël Dicker? Je répète que vous êtes un grand auteur, vous êtes très connu. Maintenant, vous avez écrit avec la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Vous êtes vraiment quelqu'un d'universellement connu dans ce monde des lettres. Et là, en 2018, vous écrivez « La disparition de Stéphanie Mahler ».
Oui, c'est un livre qui est pour moi jeune auteur, et je me considère encore comme jeune auteur. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'œuvre. J'ai encore une œuvre toute petite, et je rougis devant les grands auteurs qui ont derrière eux une carrière.
Oui, mais Victor Hugo, d'accord.
Non, mais parce que je me rends compte encore maintenant que chaque livre est une étape. Je vous parlais avant de l'échec qui vous permet de comprendre ce que vous faites. Et j'aime bien quand j'écris un livre, et je suis très heureux du succès que mes livres connaissent et ont connu. Mais j'aime bien aller gratter ensuite dans ce que je peux faire mieux, dans ce qui ne m'a pas complètement convaincu dans mon propre travail. Et « La disparition de Stéphanie Mahler » est un livre dans lequel j'avais vraiment envie de développer les personnages. Et j'ai écrit un livre autour des personnages qui est un peu un polar, parce qu'il y a une intrigue, il y a une disparition, il y a un quadruple meurtre. Donc oui, il y a vraiment un côté polar, il y a une enquête qui se résout à la fin. Mais au fond, il y a toute une galerie de personnages qui tournent autour de ça. Et puis l'enquête et les meurtres sont vraiment une façon de lier les personnages ensemble. Et d'ailleurs, j'ai reçu des lettres de lecteurs de polars fâchés en me disant « Mais ce bouquin-là n'est pas un polar parce qu'il y a beaucoup trop de personnages qui n'ont pas un lien direct avec le crime ». Et ben, je dis, voilà, c'est pour ça que parfois j'essaie d'expliquer que ça ressemble à un polar, mais que ça ne respecte pas complètement les codes du polar. Vous savez, le polar, c'est un peu une AOC où le lecteur fervent de polar attend un livre qui répond à certains codes. Mais ça a été aussi un livre important pour moi parce qu'il a été à la naissance du livre suivant, qui s'appelle L'énigme de la chambre 622, parce que...
Attends, on va répéter. L'énigme de la chambre 622, pas trop vite.
L'énigme de la chambre 622, et j'ai envie de vous raconter tellement de choses, Liliane, que je m'emballe. L'énigme de la chambre 622, paru en 2020, qui est un livre un peu connecté à Stéphanie Mahler, dans la mesure où j'avais voulu, et échoué, puisqu'on parle des échecs aussi, dans Stéphanie Mahler, j'avais voulu que le livre se passe à Genève et en Suisse, puisque je suis né à Genève, je vis à Genève et j'aime cette ville. J'avais envie...
C'est là l'histoire autour du parc Bertrand?
Exactement, absolument. Et donc Stéphanie Mahler se passe aux États-Unis. Je n'avais pas réussi à écrire un roman de fiction dans ma ville de réalité. Et c'est pour ça que je lis La disparition avec L'énigme de la chambre 622, qui lui est un roman qui se passe à Genève, essentiellement, à Verbier aussi un peu, mais beaucoup à Genève, dans les lieux qui sont mes lieux de prédilection, et qui est un roman qui rend hommage à cette ville, qui rend hommage à mon attachement à Genève, et puis qui rend aussi un peu hommage à Bernard de Fallois, puisque Bernard de Fallois est décédé malheureusement en janvier 2018.
Il voulait aller à Verbier avec vous, c'est
absolument
ça?
Absolument. Bernard me parlait de Verbier avec passion. Et il me disait, je me souviens quand j'allais voir Simenon à Lausanne, je continuais ensuite jusqu'à Verbier et j'y passais quelques jours. Et il m'avait dit, un jour, on ira à Verbier ensemble. Et on n'a jamais pu faire ce voyage. Bernard de Fallois est décédé. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, j'avais envie de situer une partie de l'intrigue à Verbier et de parler aussi de Bernard, ce qui me permettait, comme ça, de faire en quelque sorte ce voyage avec lui quand même.
Alors je crois que les gens qui vous ont encensé ensuite n'ont pas toujours été très gentils avec vous, puisque le mélange des genres a été critiqué au point que sur France Inter, vous avez dit « Parfois, la critique oublie que le livre est censé être une joie ». Et ça, c'est important.
C'est important, et c'est en tout cas comme ça que j'envisage et que je vois la littérature comme un moment de joie, comme un moment de plaisir. Elle peut être autre chose, hein. C'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ma conception en tout cas. C'est ma conception de la littérature, et aujourd'hui, pourquoi je lis, pourquoi j'aime lire et pourquoi j'incite ceux qui ne lisent pas encore à lire, c'est en leur disant, mais vous aimez lire, mais vous ne le savez pas encore, parce que la littérature, la lecture est une joie qui vous permet de sortir de votre propre vie. Je trouve que dans cette période, spécialement en ce moment, dans cette période difficile, d'enfermement, de coronavirus, d'empêchement, d'avoir une liberté absolue qu'est le livre, qu'est la lecture, qu'est le roman. C'est une chance qu'il faut chérir, cultiver et partager.
Vous avez dit aussi un mot que je partage totalement. Vous avez dit la littérature est restée un exercice poussiéreux pour élite.
Oui, et je regrette beaucoup parce que la littérature s'est fait damer le pion par la série télé. Vous savez, aujourd'hui, on parle de séries télé partout et tout le temps, et si vous êtes invité à un dîner et que vous vous retrouvez avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont peut-être pas du même milieu que vous, pas les mêmes intérêts, pas grand-chose en commun, vous voulez éviter de parler de vaccins pour éviter que le dîner se passe mal, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah, vous parlez de séries, vous dites, est-ce que vous avez vu cette série? Et tout le monde autour de la table dit, ah oui, j'ai vu, ah non, j'ai pas vu, mais au moins on a parlé. Que les gens aient vu ou pas, il va y avoir une connexion entre les gens. Les gens vont se retrouver et se réunir autour de la série télé.
Mais vous avez un livre qui a fait l'objet d'une série.
Oui, absolument. La vérité sur l'affaire Harry Kéber a été adapté par Jean-Jacques Annaud en série télé. Et j'aime les séries télé, hein, c'est très important. Il y a des très bonnes séries télé. Mais le livre permet le débat, permet de discuter encore plus loin, encore plus fort que la série télé, parce que le livre, quand vous lisez un livre, il est à vous. Vous avez imaginé les personnages tels que vous le voulez, vous avez créé vos propres décors, vous avez, en tant que lecteur, participé à la création. Et ça, c'est un élément très important.
Alors le matin, je crois que vous vous levez très tôt pour écrire. Hein.
Je me lève en ce moment à 3h30 à peu près. Parfois même un peu avant, mais je me réveille tout seul.
Vous dites, écrire est une envie, une urgence, une obsession, un jeu et un plaisir. J'ai beaucoup aimé ça.
Oui, parce que j'écris parce qu'il se passe tout ça. Et je n'écris pas parce que je dois le faire, ou parce que j'ai un contrat que je n'ai pas, ou parce qu'il faut écrire. C'est un exercice beaucoup trop exigeant et beaucoup trop fatigant pour se forcer à le faire. On le fait parce qu'on le veut, parce qu'il nous excite, parce qu'il nous tracasse, parce qu'il nous emballe, parce qu'on a dans la tête...
C'est comme une grossesse.
C'est comme une grossesse, non. D'abord, non. J'ai des enfants, mais...
D'abord, vous êtes mal placé.
Je suis assez mal placé pour vous décrire...
La grossesse.
Pour vous décrire la grossesse. Mais non, c'est pas comme une grossesse dans la mesure où c'est un accouchement. Mais c'est un accouchement quand même différent parce que l'accouchement se fait au fur et à mesure. Ça serait un accouchement de 9 mois, si vous voulez.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à tout moment, vous êtes dans le travail.
Plus longtemps même, deux ans et demi.
À 3 ans pour
ouais,
moi, oui.
3 ans.
Mais c'est jusqu'à 3 ans. Mais je crois que le temps est un élément très important. Il ne faut pas se presser. Il faut pas se presser parce que plus vous travaillez, plus vous entrez dans le détail du livre, plus vous vous rendez compte que vous pouvez affiner. Et comment est-ce qu'on sait qu'un livre est terminé? En tout cas pour moi, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'à force de réécrire, de reprendre, de refaire, vous entamez, vous abîmez votre texte. Un peu comme...
Vous l'affaiblissez.
Mais on l'affaiblit comme un morceau de bois qu'on ponce pour le polir. Et puis une fois qu'il est poli, qu'il est bien, on continue de poncer. Et puis là, on est en train de creuser le bois, on est en train de perdre de la matière. Et quand on arrive à ce moment-là dans le livre, c'est qu'il faut immédiatement arrêter et qu'il faut le donner en lecture parce que le livre est terminé.
Et là, qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute maintenant une chanson d'un artiste anglais qui s'appelle Rag & Bone Man, Falling in Love Again, qui est un artiste que j'ai pas mal écouté cet été pendant que j'écrivais mon prochain roman.
Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine.
To stay till morning, you can leave without a warning. If you want to, don't be scared to hurt my feelings. Creep out while I'm still sleeping. If you want to, don't stay too long. I don't wanna fall in love again. The conversation, say that I need my space, Lord, cause I want you. I will make some poor excuses every time that I get close to you. Don't stay too long. I don't wanna fall in love again. Don't cross. So bad. I know.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Avec Joël Dicker, l'auteur francophone le plus vendu en 2020. C'est quand même assez fabuleux, ça. Vous avez, je crois, 35 000 fidèles sur Twitter et 100 000 sur Instagram.
C'est vrai.
Bravo, Joël.
Merci.
Et là, vous n'avez plus votre cher éditeur, donc M. de Fallois.
Non.
Et vous décidez de monter votre propre maison d'édition. Alors, parlez-nous-en.
C'est une décision qui a été une longue décision, que j'ai beaucoup mûri. Même du vivant de Bernard. Bernard est né en 1926, et il était lui-même conscient de son âge, même s'il avait donné parfois cette impression qu'il vivrait pour toujours. Je me disais, mais qu'est-ce que je ferais après lui? Où est-ce que j'irais? Et qu'est-ce que... Je ne me voyais pas ailleurs. Je ne me voyais pas avec un autre éditeur que lui. Je ne me voyais pas ailleurs que dans sa maison à lui. Et j'imaginais que peut-être sa maison continuerait d'une façon ou d'une autre. Et puis, j'apprends au fil du temps que, de toute façon, Bernard, il souhaite que sa maison ferme après lui. C'est un souhait, c'est un élément qui est important pour lui parce que c'est la maison autour de lui. Puis voilà, il ne veut pas que ça se prolonge, ce que je respecte évidemment. Et puis, il décède en janvier 2018. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, peu après, paraît mon roman La disparition de Stéphanie Malheur, qui marche très bien, qui est le numéro un des ventes en France de l'année. Donc je vous raconte ça pour vous dire que je me retrouve à un grand déjeuner organisé par un grand média français dans lequel il y a tous les éditeurs de Paris et les auteurs qui ont vendu beaucoup de livres cette année-là. Et je me retrouve à ce déjeuner, à ce dîner, je me dis, mais... Je pourrais aller n'importe où, chez n'importe quel éditeur, ce qui était mon rêve quand j'étais enfant et quand même jeune adulte, et que j'essayais, que j'écrivais. Je me dis, mais chez qui est-ce que je veux aller? Je me dis, mais chez personne, je veux être avec Bernard. Et c'est à ce moment-là que je décide de monter ma maison d'édition pour être fidèle à Bernard, pour continuer modestement et sans me comparer à lui, mais pour continuer un peu ce projet qu'on avait commencé ensemble autour de mes livres. Et on avait monté une collection de poches autour de mes livres. On avait beaucoup travaillé aussi sur mes romans, sur les maquettes, sur les choix des images et des couvertures. Et je me dis, je vais continuer. Je vais monter ma maison, qui sera une maison suisse, maison d'édition suisse, qui me permettra d'une part de reprendre mon catalogue et de continuer
à le faire apparaître. On peut reprendre son catalogue? Ah oui, parce que la maison est fermée.
La maison ferme, donc on peut reprendre son catalogue.
D'accord.
Et puis à côté de ça, de pouvoir aussi faire paraître d'autres auteurs. C'est-à-dire que c'est pas de l'auto-édition, c'est pas moi, Joël, qui édite Joël, j'ai monté une structure dédiée avec
Je crois que vous avez une dizaine de personnes. Hein.
J'ai moins que ça, j'ai à peu près 5 personnes.
5
qui
personnes.
S'occupent de la maison, mais donc j'ai une vraie structure qui gère la maison.
Et
un diffuseur qui est Editis.
Editis voilà.
qui est un partenaire très important parce qu'ils ont tout de suite, quand j'ai parlé de cette maison, ils sont venus tout de suite avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'excitation et aussi un contact humain très fort avec les dirigeants, qui est un élément pour moi très important parce que dans la vie, ce qui compte au fond, c'est ce qu'on garde vraiment, c'est pas l'argent, c'est pas la gloire, c'est pas le succès, c'est pas la futilité, c'est les vrais amis, c'est les gens qui ont été là pour nous, c'est ces liens humains, c'est aimer et être aimé, ça c'est vraiment ce qui pour moi me guide. Et donc c'est pour ça que je suis parti avec Editis, en tout cas dans la distribution, parce que j'ai l'impression en train de mettre en place donc cette maison qui va commencer à opérer vraiment en mars 2022. Et je sais, je crois et je l'espère, mais en tout cas ça en prend le chemin, une belle aventure humaine. Et ça, je m'en réjouis beaucoup.
Alors, vous avez dit, je ne vais pas seulement m'auto-éditer, je vais éditer d'autres livres. Est-ce que vous allez chercher à éditer des romans policiers, des romans tout courts, des romans autobiographiques? Vous allez chercher comment? Et vous allez faire venir comment à vous? C'est très intéressant, une maison d'édition.
Oui.
J'ai eu une maison d'édition à Paris très éphémère. Et c'est passionnant.
Mais je savais pas. C'est passionnant parce que est difficile en même temps. Et donc
très.
Vous le savez parce qu'il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est difficile en général. En termes de littérature et de livres, ça l'est encore plus parce que il y a tellement de choses extraordinaires, tellement de sujets intéressants, tellement de très bons livres.
Mais présager du goût des lecteurs, c'est mission impossible. Faut être
c'est mission impossible, mais je crois que, et là je me base sur mon expérience d'écrivain, il ne faut pas présager du goût des lecteurs, il faut les initier, il faut les amener, il faut les conduire, il faut leur proposer quelque chose qui pourrait leur plaire. Et je crois que le lecteur, en général, est quelqu'un qui valorise la prise de risque. Je crois qu'un lecteur, et là c'est l'écrivain qui parle, mais je crois qu'un lecteur me pardonnera toujours d'avoir pris des risques. Il me pardonnera par contre plus difficilement de ne pas en avoir pris, d'être devenu un peu routinier et pépère dans ce que j'écris, de répéter des schémas déjà lus. Et je crois que pour un livre, pour éditer, pour faire paraître un livre, je crois que c'est un peu pareil. Il faut aller chercher quelque chose qui va surprendre. Et j'ai déjà quelques titres, notamment un titre historique sur le SOE, et également un titre sur la littérature, l'importance de lire et sur la fonction du cerveau en littérature, parce qu'on oublie parfois que la lecture est une fonction qu'on a créée, que l'homme a créée, qui n'était pas innée. Et donc tout ça sont des éléments très importants que j'ai envie de partager, et c'est cette envie de partager, de me dire « mais ça c'est un sujet tellement important, il faut qu'on en parle », que j'ai décidé de choisir ces livres plutôt que d'autres. J'aurai évidemment une production limitée parce que c'est une petite maison et je ne peux pas faire parler beaucoup plus que 2 ou 3 titres par an.
Voilà, beaucoup de travail, parce que vous êtes aussi en train de travailler un autre roman.
Oui, que j'ai terminé presque, qui sortira mon premier roman, le premier à paraître chez moi, dans ma maison d'édition.
Alors, on va dire le nom de la maison d'édition.
Oui, la maison s'appelle Rosier et Wolf.
Alors, il y a des raisons à ça.
Il y a des raisons. C'est un hommage à ceux qui m'ont fait lire et écrire. Rosier étant une dame très importante qui m'a initié, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier de la lecture. Et puis Wolf, c'est le nom de mon grand-père qui a notamment écrit un livre sur Daughtry. Et je me souviens enfant avoir vu le manuscrit de ce livre et j'ai encore en tête l'image de ce manuscrit que j'ouvre, que je parcours. Et je sais que ce moment-là, ce jour-là, quand j'ai ouvert ce texte, je me suis dit, mais moi aussi, j'aimerais écrire un livre.
Vous êtes né écrivain à ce moment-là, peut-être?
Alors, en tout cas, dans mon envie. Dans mon envie de me dire, mais moi aussi j'aimerais écrire un gros texte une fois comme ça. C'était une envie d'enfant, hein, j'avais 8-9 ans, mais je me rappelle très bien ce sentiment tellement fort, cette envie de créer.
Joël, il y a loin du temps où vous disiez, c'est foutu, je ne serai jamais publié.
Oui, oui, il ne faut pas désespérer, et puis il faut croire en soi, c'est important. Et puis surtout, je le redis, mais ce qui est important, c'est les liens qu'on peut créer. Et pour ceux qui voudraient être édités, qui ont écrit un texte et qui ont de la peine à trouver un éditeur, peut-être que l'étape d'aller dans des salons du livre ou d'aller directement chez un éditeur à sa rencontre, lui envoyer un mail avant de lui envoyer votre texte, en lui disant est-ce qu'on pourrait se parler, est-ce qu'on pourrait boire un petit café, est-ce que vous auriez 5 minutes, ça peut aider, ça peut faire bouger les choses parfois.
Bien sûr. Ces 2 derniers mots, malheureusement, c'était trop court cette émission.
Merci, merci beaucoup de m'avoir invité ici.
On va vous réinviter.
Avec grand plaisir.
Vous viendrez, vous serez un habitué de la maison.
Avec joie.
À bientôt,
merci,
Joël.
Bien, à bientôt.
Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui a enregistré cette émission. À bientôt.
Au revoir.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.